Robert Boyer, vous êtes jésuite, mais vous êtes aussi avocat. Vous êtes connu pour défendre la cause de nombreuses prostituées. Pourquoi un jésuite accepte-t-il une telle tâche?
Oui. Le problème, c'est peut-être d'abord de... étant jésuite, d'être avocat, parce que chez nous, c'est une profession dans laquelle on n'entre pas sans des barrages assez sévères, et pas uniquement d'ordre universitaire. Étant le premier religieux à être avocat, parce que cela pose des problèmes dans notre histoire juridique, les religieux n'étant pas reconnus en France, en particulier les jésuites, bien sûr, et puis le religieux ayant des liens de subordination, puisqu'il fait un vœu d'obéissance, c'est incompatible avec la profession d'avocat chez nous. L'avocat est un homme qui doit être parfaitement libre et indépendant de toute subordination. Il a donc fallu créer une jurisprudence pour que je puisse être avocat. Ça n'a pas été sans quelques difficultés. Et je dois vous dire que les difficultés que j'ai rencontrées, ça a été du côté du monde catholique traditionnaliste, pas du monde des incroyants ou des non-croyants.
Parce qu'il faudrait peut-être dire, M. Boyer, que vous étiez jésuite avant de devenir avocat.
Oui, il y a 25 ans que je suis jésuite.
Et il y a combien d'années que vous êtes avocat ?
4 ans.
4 ans.
Et donc, il y a eu cette difficulté-là. Alors, pourquoi d'abord, étant jésuite, devenir avocat ? Ça, c'est un problème qu'on traitera peut-être autrement. Mais quel avocat ? C'est sûr qu'un prêtre qui prend une profession ne peut pas prendre, à mon sens, n'importe quelle profession pour faire n'importe quoi. Il peut y avoir une espèce de fausse mystique du travail. On a vu, ou on voit à certains moments, des prêtres assez désemparés, sachant pas trop bien comment se situer dans la société, et qui éprouvent le besoin de travailler pour se convaincre qu'ils sont des hommes normaux, et donc qu'ils ont une place normale. Moi, je me souviens avoir écrit à mon provincial que j'avais pas besoin de passer 8 heures à une table pour me convaincre que j'étais un homme. J'étais naïf, je croyais que j'y passerais que 8 heures par jour. Mais c'est pas n'importe quoi qu'on peut faire. Donc, voilà une profession qui est quand même axée sur la défense. La défense, ça veut dire que quelqu'un qui est faible, qui est en position de faiblesse, quel qu'il soit, on va venir l'aider. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, le sacerdoce n'est pas incompatible, bien au contraire. Mais qui on va aider ? Parce qu'on est dans un monde, surtout dans notre monde à nous, qui est pétri de traversées, si vous voulez, de conflits historiques, on ne peut pas défendre tout le monde et personne. Ça n'est pas vrai. On ne peut pas défendre chacun et son contraire. En plus, si vous êtes prêtre, vous avez fait des choix de vie. Vous avez une référence qui est normalement l'Évangile, les béatitudes. Ça veut dire que si vous prenez un travail professionnel, quel qu'il soit, ça va être pour vivre concrètement ces choix-là, cette ligne-là. Pourquoi les prostituées ? Mais ouvrez l'Évangile. Moi, j'ai toujours été frappé d'une chose, c'est que dans l'Évangile, il n'y a aucun discours de morale du Christ. Jamais il fait un discours de morale à quelqu'un. Et il nous présente jamais ce qu'on appelle les gens bien de ce qu'on appelle la bonne société. Traduisez les gens qui ont de l'argent, des titres, une bonne éducation, enfin, etc., les privilèges. C'est jamais ça dans l'Évangile, c'est curieux. Quand il les rencontre, c'est pour avoir des bagarres avec eux, c'est pour leur envoyer en travers de la figure des choses assez vigoureuses qui concordent pas beaucoup avec la notion de charité édulcorée et sirupeuse qu'on a eue. Alors, il rencontre qui ? Il rencontre la femme adultère. C'est pas bien de faire commettre l'adultère. Il rencontre la samaritaine qui en est à son 6e mari, dit-elle. Ça veut dire que c'est la femme légère qui veut la prendre. Marie, couche-toi là. Il rencontre la prostituée. Il rencontre le bon larron. Nous, on l'appelle le bon larron. C'est bien. C'est quand même un bandit de grand chemin et rien d'autre.
Et le publicain.
Et le publicain, etc. Or, c'est précisément ceux-là qui sont le... Pour un pénaliste, je suis pénaliste, c'est ceux-là qui sont notre pain quotidien. Alors, en ce sens-là, moi, je rencontre, j'ai le sentiment de rencontrer ceux qui sont dans le plus grand besoin. Bon. La prostituée, pourquoi? Il y a aussi des circonstances. C'est elles qui m'ont choisi, hein. C'est pas moi qui les ai choisies. Chez nous, c'est pas l'avocat qui choisit son client, c'est l'inverse. Bon. Un jour, elles ont décidé qu'elles n'auraient plus qu'un avocat, et que ça serait moi. Bon, ça s'est trouvé comme ça. Pourquoi? Parce qu'aussi, ça faisait un an et demi qu'on faisait des réunions avec elles. Ces femmes-là, personne n'accepte jamais de leur parler, de les rencontrer, c'est le mépris continuel. Ben, on s'est dit qu'un jour, elles avaient peut-être des choses à dire, elles avaient des problèmes aussi, et avec un certain nombre d'amis, de la chronique sociale notamment, on les a rencontrées et elles ont pu dire un certain nombre de choses. Bon, c'est sûr que ça crée aussi des liens, c'est pas sans raison qu'un beau jour, elles disent, ben, c'est celui-là qu'on va prendre. Mais ce faisant, en défendant sur un problème juridique très précis les prostituées, je défends des femmes qui sont exploitées. Ça, c'est le sens, la signification de mon travail d'avocat. Si je suis avocat pour défendre les gens fortunés, vous permettez, ça ne vaut pas le coup, quand on est prêtre, de passer son temps à ça. Il y a des gens qui feront ça très bien, qui gagneront peut-être beaucoup d'argent avec. Je ne vois pas, pour moi, la signification évangélique de ce genre d'activité. C'est comme si j'étais agent de change à la bourse. Bon, je ne vois pas pourquoi, comment un prêtre pourrait concilier ça. Enfin, ce n'est pas un métier infamant, mais enfin... Je ne vois pas l'évangile directement en prise là-dessus.
Pour vous, la prostituée est une femme exploitée.
Oui.
Mais quand est-on exploité? Par exemple, le proxénète, le souteneur, ne pourrait-il pas être dit lui aussi exploité, n'est-ce pas victime de la société?
Le petit proxénète, oui, là-dessus on peut entrer dans des distinctions. Si vous voulez, la prostitution est un monde qui change beaucoup. Moi je pense qu'actuellement, si on pouvait avoir un organigramme des flux monétaires produits par la prostitution, on verrait arriver dans nos bonnes familles, de bonnes sociétés et éventuellement bien catholiques, des revenus assez confortables, sous forme de sociétés immobilières, de ceci ou de cela, des formes extrêmement diverses dont les bénéficiaires ne sont même pas conscients. Si vous voulez, la complexité du monde économique fait que ces profits-là sont d'une telle nature et d'une telle dimension qu'ils échappent à l'appréhension directe. Alors qu'autrefois, le macro, le proxénète, c'était le bonhomme qui faisait travailler trois ou quatre filles, qui les surveillait du coin de la rue, etc. Il savait ce qui rentrait. Maintenant, on est d'une forme beaucoup plus élaborée. Et puis, il y a ce que nous appelons le petit proxénète, enfin, le gars, l'ami de cœur. Car la prostituée est une femme qui n'a pas le droit d'avoir une vie sentimentale. Ça lui est refusé. C'est une machine, hein, c'est une ouvrière du sexe, un point c'est tout. Il se trouve que, comme tout le monde, un jour, elle rencontre un gars qui leur plaît. S'ils se mettent à vivre ensemble, il devient proxénète, automatiquement, même s'il travaille. Puis comme au bout d'un moment, elle va lui faire des cadeaux pour montrer aux copines que son gars, elle, est mieux que le leur, ben, il finira aussi par trouver que le travail est fatigant et puis qu'il est plus nécessaire. Mais, si vous voulez, ce proxénétisme-là est déjà différent. Et effectivement, à ce niveau-là, il commence à se faire un travail avec ces gars-là. Pour peut-être les sortir de cette exploitation qui est semi-consciente, semi-inconsciente. Et c'est vrai aussi que c'est pas n'importe qui devient comme ça l'ami ou d'une prostituée. Mais le souteneur comme tel, c'est un industriel du corps de la femme. Moi, c'est mon adversaire.
Enfin, moi, je voulais pas qu'on se lance dans une discussion sur la prostitution de prostitutrice. Mais enfin, quand est-on, à votre avis, justement, un exploité? Est-ce que finalement, enfin, prenons un autre exemple, n'est-ce pas, le grand propriétaire qui se présente, n'est-ce pas, peut-être devant un tribunal, mais qui a un locataire qui ne paie pas? Est-ce que lui aussi n'est pas exploité? Est-ce qu'on est exploité du seul fait qu'on est riche, finalement? Est-ce que les riches n'ont pas le droit aussi à la justice?
Oui, mais alors rassurez-vous, si vous avez des craintes, la justice, pour eux, elle fait le maximum. Ils sont tranquilles, ils expulseront leurs locataires et eux, ils y arriveront, croyez-moi. De ce côté-là, leurs doigts sont bien gardés car le privilège appelle le privilège, appelle le pouvoir. Ça, de ce point de vue-là, ils sont bien défendus, je ne les plains pas. C'est vrai que vous avez le droit, quand vous louez un appartement, d'être payé. Ça, je le reconnais tout à fait, si vous voulez. C'est pas mon souci premier. Hein. C'est pas mon souci premier. Moi, ce qui me soucie d'abord, c'est les gens qui peuvent pas vivre, qui n'ont pas de revenus. Hein. Pas de revenus en plus supplémentaires, si on peut dire. Mais ce droit-là, je le reconnais tout à fait. Mais il se trouve que les institutions judiciaires, ce droit-là, elles le couvrent bien. Et j'allais dire de manière prioritaire. Alors, c'est pas mon inquiétude. Je le laisse à d'autres qui s'en chargent très bien.
Et qui peuvent être
très contents.
Et qui peuvent aussi être des avocats honnêtes.
Mais oui, mais rassurez-vous, Les propriétaires n'ont jamais manifesté pour dire que personne ne les défendait. C'est pas encore demain la veille, comme on dit à Lyon.
Vous avez décidé de défendre les pauvres, oui. Les exploiter.
Oui, mais ça n'a pas d'autre sens. Je ne peux pas entrer dans une activité professionnelle de cet ordre pour défendre les nantis, pour défendre ceux qui n'ont pas la priorité. Moi, vous comprenez, si les pauvres étaient tous défendus, je dirais d'une manière telle qu'ils puissent faire le choix comme ils voudraient d'un défenseur, tellement il y en aurait. Oh, peut-être qu'on pourrait idéalement penser qu'on peut défendre n'importe qui, tout le monde, etc. C'est un choix idéal, moi je veux bien. Il se trouve que, nécessairement, la richesse, la puissance écrase des gens. Qu'il y a toujours des gens écrasés par l'argent, par la puissance, par le pouvoir. Moi, il se trouve que c'est la priorité évangélique et que moi j'ai choisi l'évangile comme ligne de ma vie. Bon, c'est tout, je suis cohérent avec moi-même. Si j'avais choisi autre chose, si j'avais choisi... l'affirmation de moi-même, peut-être que j'aurai d'autres choix. Moi, j'ai choisi l'Évangile. Je constate que dans l'Évangile, il y a une priorité pour les pauvres. Elle est affirmée, massive. Ben, c'est la mienne.
Brutalement,
Robert
Boyer.
Je la rencontre dans la société.
Brutalement. Est-ce que défendre les pauvres, ça vous rend riche ?
Riche, non.
Vous avez un beau cabinet.
Oui, mais je m'épuise. Non, mais ça ne me rend pas riche. Je vais vous dire, moi, vous savez, alors là, sur le plan économique, je suis très clair. Je peux vous sortir mes livres de compte, ça ne me gêne absolument pas. Je dépense 1500 francs par mois. L'année dernière, très exactement, j'ai dépensé 1500 francs par mois.
C'est-à-dire environ 300 dollars.
C'est-à-dire 300 dollars, c'est le SMIC en France. C'est-à-dire le salaire de l'ouvrier sans qualification. Je mets une certaine somme de côté en avant parce que il faudra demain que je remplace ma voiture qui est un outil de travail, que je peux avoir un petit pépin professionnel, etc. Et puis c'est tout. Mais ça me suffit, moi j'ai pas... Seulement, c'est un métier chez nous qui a des frais considérables, des frais de gestion considérables. Moi j'ai entre 4000 et 5000 francs de frais par mois. Donc quand j'ai fait 6 ou 7000 francs de chiffre d'affaires, bon, il va m'en rester 2000.
C'est-à-dire environ donc 400 dollars. 2000 francs, ça représente à peu près 400 dollars.
C'est ça, oui.
Mais vous êtes le seul, vous êtes un être unique.
Unique à quoi?
Oui, à faire ce travail. Vous êtes un oiseau rare dans la ville de Lyon.
Remarquez, je suis unique dans la mesure où, étant religieux, j'ai quand même fait un choix qui est particulier.
Mais à défendre les pauvres.
Je ne peux pas demander à mes... Je suis célibataire par définition, etc. Évidemment, je ne peux pas demander à mes confrères d'avoir les mêmes points de vue et les mêmes exigences. Mais à défendre les pauvres, non. Non, je vis ici, moi, en symbiose avec un cabinet de gens qui ont démarré bien avant moi. Et qui défendent les pauvres, qui défendent les syndicats, les travailleurs, ceux qui... précisément, sont broyés par la machine économique. Le monde rural français, qui se voit de plus en plus rejeté, qui doit abandonner sa terre, etc. Non pas qu'on est pour une espèce de maintien de formes archaïques, mais on estime que l'homme qui travaille la terre, c'est lui qui est premier, c'est pas le propriétaire. Si vous voulez, on a deux thèmes ici, deux lignes de force. Les personnes avant les biens. Le travail avant le capital. Et c'est dans ces axes-là qu'on travaille.
Vous avez dit que dans votre livre, La justice dans la balance, qu'il fallait non pas juger des actes, mais une personne. Est-ce que ce jugement sur la personne ne risque pas justement d'être dangereux? Est-ce que finalement, de juger un acte n'est-il pas préférable de juger une personne? Juger un acte, c'est dire, voilà, cette personne-là, à un moment donné, a fait quelque chose qui est peut-être pas, bon, qui est contraire à la justice, à la vie en commun. Mais juger une personne, est-ce que ça risque pas justement d'être, au contraire, très, très discriminatoire?
Oui, en fait, quand je dis ça, je veux dire qu'il faut juger une personne qui a posé cet acte. C'est pas un acte en soi. Je veux dire par là que je m'élève contre la forme de justice purement distributive, comme on disait autrefois. C'est-à-dire, vous allez chez l'épicier, vous dites je veux un kilo de sucre, on vous dit ça vous fait tant de cents, tant de centimes. Bon. C'est égal. Toc, toc. Bon. Alors, vous avez commis un vol, ça fait tant. Bon, paf. Vous avez pris une mobilette, ça fait tant d'amende, ou vous avez volé une automobile, ça fait tant de mois de prison. Cette justice-là, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un tarif, mettons une machine électronique, appuyons sur un bouton, ça fera aussi bien. Bon. Or, c'est un homme, un être humain qui a posé un acte. Et un être humain pose des actes. Le même acte peut avoir une signification complètement différente. Et c'est ce que nous demandons. La loi le demande. En France, depuis 1949, depuis le nouveau code pénal, code de procédure pénale, il est expressément dit qu'on doit personnaliser la peine. C'est-à-dire qu'on doit juger un homme en fonction des faits qui lui sont reprochés et de ce qu'il est, c'est-à-dire de son environnement social, de son histoire, de ses problèmes. Et il est bien évident que, pour prendre l'audience qu'il y aura cet après-midi au tribunal correctionnel, vous allez voir 20 personnes qui ont été inculpées pour vol dans des grands magasins. Il est bien évident que, prenons un cas précis, moi j'ai eu un invalide. 700 francs par mois pour vivre, 35 dollars, non, 140 dollars,
oui.
Pour vivre par mois. Bon. Il va dans un grand magasin, qu'est-ce qui se passe, une grande surface? On le tente, c'est le principe même de la grande surface, c'est de vous tenter à l'extrême. Étant bien entendu que le souhait fondamental, c'est que vous succombiez à la tentation. Avec un tout petit détail, c'est que entre les deux, il y a un billet de banque.
Il y a l'addition payée, ouais.
Lui, il n'a pas le billet de banque. Il a tout le reste. Eh bien, il suit le processus et il succombe à la tentation. Qu'est-ce qu'il prend? Deux tablettes de chocolat, deux fromages. Et il va au tribunal. Et puis, vous pouvez avoir, je l'ai vu aussi, le médecin qui, lui, va subtiliser une cassette. Le montant est peut-être le même, le geste ne l'est pas. Et l'acte est peut-être le même, la signification est complètement différente. Alors, il faut bien qu'on réfléchisse un jour comment il se fait que devant les tribunaux vont toujours les pauvres, massivement, et jamais les riches. Alors, on connaît, nous, un certain nombre de choses par le métier, par la profession, et je dirais même par le fait aussi que je suis prêtre, on connaît aussi pas mal de choses sur la vie privée des gens. On sait qu'il y a des choses pas très jolies qui se font et à des niveaux de dommages pour la société qui sont tout autres et qui ne sont pas sanctionnés par la justice. Parce que le scandale, parce que qu'est-ce qu'on dira, parce qu'on étouffe, ou bon, on noie le poisson, etc. Moi, je suis pas pour la répression, pour on dire qu'il faut que les riches aillent en prison. C'est pas ça. Je dis, je vois pas pourquoi ce sont toujours les pauvres qui y vont, pourquoi ce sont toujours les pauvres qui font l'objet de l'attention la plus minutieuse de la justice.
Est-ce que vous attendez de la justice qu'elle rétablisse l'équilibre social ou
qu'elle rétablisse? Non, je suis pas. J'ai mes utopies, mais je ne demande pas aux gens plus que ce qu'on leur demande, légitimement. Mais j'attends d'elle qu'elle participe à une moindre injustice, parce que c'est sa fonction, c'est sa raison d'être. Si l'institution judiciaire ne participe pas à la réduction des inégalités, de l'injustice à sa façon, je dis, qu'est-ce qu'elle fait là? On n'en a pas besoin.
Et comment expliquez-vous le mécontentement qu'il y a partout dans le monde à l'égard du système judiciaire?
Ben, parce que je pense que le système judiciaire est une des institutions les plus lentes à bouger. Parce que les conséquences vont loin. Si vous voulez, on ne change pas un système judiciaire tous les 10 ans. On peut changer une politique économique tous les 10 ans, Dieu sait qu'on est bien payé pour le savoir depuis quelques années. Mais un système judiciaire, c'est très lent à mettre en place, ça induit des conséquences assez fortes. Et un système judiciaire se met en place après un temps assez long d'expérimentation, je dirais, intuitive, pour ainsi dire. Nous, on est bâti dans nos pays occidentaux, le monde anglo-saxon mis à part, qui a une autre tradition. Mais dans nos pays occidentaux, en Europe, on est bâti sur le monde napoléonien. La Belgique, la Suisse ont des codes napoléoniens, le code français qui s'est un peu démarqué au fil du temps, mais qui fondamentalement est le même. C'est-à-dire une image de la société, une certaine image. C'est le bon père de famille. Ça existe dans le droit, on vous dit que vous devez gérer vos biens en bon père de famille. Le bon père de famille, c'est le monsieur qui a des terres et qui les gère, et qui a des fermiers éventuellement, qui a des ouvriers, qui est le bon patron. C'est ça le modèle. Et puis vous avez une autre réalité, une réalité qui est infiniment plus tragique, parce que le bon père de famille, un livre aussi, sur les chemins de fer au 19e siècle, il y a un petit règlement d'atelier dans ce livre, qui d'ailleurs a été repris par les chemins de fer, que j'ai trouvé bien antérieur en 1830, et que j'ai retrouvé ensuite en 1880 chez les frères Montgolfier. Donc c'est un modèle de contrat tel qu'il s'est développé dans le monde de l'industrie. C'est invraisemblable ce qu'on y lit, c'est invraisemblable. Vous allez voir. On y dit par exemple, piété, propreté et ponctualité font la force d'une bonne affaire. C'est intéressant, la religion qui vient au secours du capital. Alors, la compagnie ayant considérablement réduit les horaires de travail, les employés de bureau n'auront plus à être présents que de 7h du matin à 6h du soir.
13h par jour.
11h. 11h par jour. Et figurez-vous que le dimanche, eh bien maintenant, on va leur permettre d'aller à la messe. Ce qu'on leur a pas permis au début, les bons pères de famille. Alors on explique qu'ils ont le droit de répondre aux appels pressants de la nature. C'est une faveur considérable. Il faut le dire. Il faut quand même le dire. Droit de répondre aux appels pressants de la nature. Évidemment, on doit venir balayer le bureau du directeur avant, après, faire les prières, etc. Et ça se termine comme ceci. Les nouveaux salaires sont les suivants. Cadet jusqu'à 12 ans, 0,50 francs.
Par jour, de l'heure ?
Oui, par jour.
Par jour. Qu'est-ce que ça représente ?
Junior jusqu'à 15 ans, 1,45 francs. Employé, 7,50 francs. Senior, après 15 ans de compagnie, 14,50 francs. La compagnie reconnaît et accepte la générosité des nouvelles lois sur le travail, mais attend du personnel un accroissement considérable du rendement en compensation de ces conditions presque utopiques. Alors, on est dans une certaine société qui induit un certain système judiciaire. Alors, pour le bouger, il faut que la société change. La justice ne peut pas changer toute seule.
Mais alors, est-ce que justement le simple citoyen ne se sent pas justement opprimé et se dit « mais qu'est-ce que je peux faire ?»
Oui.
Qu'est-ce que peut faire un simple citoyen devant la justice ?
Eh bien, il peut se lever et commencer à travailler, parce que on m'a souvent posé la question. Je me suis battu pendant 7 ans et demi en France pour une affaire criminelle, pour un garçon qui a été accusé injustement, condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Au bout de 7 ans et demi, on a obtenu la révision de son procès, il a été acquitté.
Vous étiez avocat ?
Non. J'étais étudiant jésuite. J'ai été ordonné prêtre au milieu de cette bagarre, et elle s'est terminée bien avant que je sois avocat. C'est d'ailleurs en partie, c'est même une des grandes raisons qui m'ont fait devenir avocat, c'est l'expérience que j'ai acquise dans ce monde-là à cette occasion. Souvent on m'a dit pendant cette bagarre, qui a quand même remué toute la France, souvent on m'a dit, mais qu'est-ce que je peux faire moi pour la justice ? Eh bien, ouvrez les yeux. Est-ce qu'une mère de famille va vous dire qu'est-ce que je peux faire pour mon enfant ? Elle trouve ce qu'il faut faire. Moi, si les gens trouvent pas autour d'eux ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un peu plus de justice, alors ou bien ils se racontent des histoires, ils se font leur petit cinéma et ils font du sentiment, on n'en a rien à faire. Ou bien alors ils sont aveugles. Enfin, je sais pas. Ça crève les yeux. Alors, il faut peut-être trouver modestement. Moi, cette affaire-là, j'ai commencé un jour par dire j'accepte pas ce verdict. Parce qu'il se passe dans des conditions inadmissibles. On n'a pas le droit de mépriser un homme, de le traiter comme un chien au tribunal. C'est ce qui s'était passé. J'ai dit, je n'accepte pas. J'en ai parlé à un de mes amis, qui était un ancien ministre, et qui m'a dit simplement une chose. Il m'a dit, tu peux faire quelque chose, tu dois faire quelque chose. Je suis parti là-dessus. Ça a duré 7 ans et demi. Quand j'y pense, maintenant, je me dis que si on m'avait dit au départ que je ferais ça, j'aurais ouvert des yeux tout rond. J'ai été frappé à la porte des ministres, je me suis installé chez eux, je me suis engueulé, le mot est trivial, mais c'est celui-là, avec eux. Et on y est arrivé. Alors, chacun a son charisme, mais c'est à chacun à trouver son lieu et sa manière de se battre pour la justice. Mais ou bien on vit dans une espèce de monde abstrait, ou qui est le monde qui vous bouge tout parce qu'on a trop d'argent, je ne sais quoi, ou bien enfin les injustices autour de nous sont manifestes, évidentes. Eh bien qu'on s'y engage, qu'on trouve son lieu, et puis qu'on fasse sa part de travail.
Oui, c'était facile.
Modestement.
C'était facile pour vous. Vous connaissiez un ministre déjà, vous voyez.
Mais c'est pas
mais
parce
pour que... le simple citoyen qui a peur déjà à la simple pensée de s'adresser à un agent de police.
Oui, mais pourquoi il a peur de s'adresser à un agent de police?
Parce qu'il pense que l'agent de police finalement va se retourner contre lui. Qu'il va être brimé par lui.
Mais pourquoi il se retournerait contre lui? Une des difficultés qu'on a, c'est que beaucoup de citoyens ne savent pas défendre leurs droits. Ils partent vaincus. Et si vous disiez à un agent de police, monsieur, je regrette, vous n'avez pas le droit de faire ça. Qu'est-ce qu'il fait s'il n'a pas le droit? C'est lui qui se fait petit. Ouais, il faut savoir aussi revendiquer ça, sa vie. Elle ne va pas se faire toute seule. Il y a des gens qui attendent une espèce de société qui va nous arriver un lundi matin, parfaite, enfin tout sera changé, tout beau, tout gentil. Comme un tas de croyants conçoivent la création. Ils pensent qu'un lundi matin, tac, ça y est, c'est arrivé. Et puis le lundi suivant, c'était formidable, après le week-end, le bon Dieu était reposé, c'était merveilleux. Ils oublient que ça se fait tous les jours, c'est tout.
Ça doit demander quand même une certaine dose de courage, non?
Mais oui, mais... Ouais, non, mais on revient toujours aux mêmes choses. Moi, je prends l'Évangile comme signification de ma vie. Il y en a d'autres qui prennent autre chose. Moi, je prends l'Évangile. Je vois pas comment on peut essayer de vivre l'Évangile sans courage. Si on veut m'expliquer que le croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, c'est facile, ben, il faudra qu'on se lève tôt parce que je vois pas. Et je pense que c'est même une des faiblesses du monde catholique en particulier, puisque c'est le mien, que d'avoir présenté la religion, la foi, comme quelque chose qui était facile. On allait à la messe, on faisait le maigre le vendredi, moyennant quoi on était sauvés. Ben ça, c'est de la logorée, c'est du baratin, c'est du discours, ça n'a aucune réalité. Voilà, avec ça, en Amérique, quand je faisais ma dernière année de formation, le vendredi, on faisait maigre. On ne mangeait pas de viande. On mangeait seulement une moitié de homard chacun. Moi, je veux bien qu'on venait faire pénitence sur ce mode-là. Mais on est en pleine confusion. Ça veut dire quoi?
Mais finalement, pour vous, un homme juste, qu'est-ce que c'est?
Un homme juste, c'est Jésus-Christ.
Ça mène à la croix.
C'est le juste. Mais on n'en fera pas l'économie. Vous comprenez, on ne peut pas vivre Pâques en faisant l'économie du Vendredi Saint. Ça n'est pas possible. Si vous voulez, il y a un auteur moi, qui m'a beaucoup marqué dans la littérature française, qui est Bernanos. Je ne sais pas si vous avez lu L'imposture et la joie. Mais voilà un homme qui avait un sens mystique réel. Et c'est vrai que cet homme montre que la joie naît du plus profond de la tristesse, dit-il. Mais la tristesse, c'est de Satan. Mais il faut avoir été au fond du désespoir pour savoir ce que c'est que l'espérance. Il faut être allé jusqu'au bout de la nuit pour découvrir l'aurore nouvelle. Je crois que ça, c'est le chemin du chrétien. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'aurore, il n'y a pas de joie si, effectivement, nous n'avons pas accepté de marcher sur les chemins d'épines. Si nous n'avons pas accepté de mourir. Vous connaissez l'Évangile, qui veut sauver sa vie la perdra. Si le grain ne meurt, il ne produit pas de fruits. On n'en sort pas. Il n'y a pas d'autre de vision. Alors, si on veut nous donner un catholicisme gentil, qu'on est avec cette espèce de charité qui est du mâchouillage de guimauve, où on tape la main sur l'épaule du voisin, puis on est tous frères, etc. Et pendant ce temps, les pauvres crèvent. Zéro, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que Jésus-Christ, il ne fait pas comme ça, il prend un fouet de temps en temps. Quand je suis passé devant le conseil de l'ordre pour mon admission, on m'a dit, un jeune avocat chrétien m'a dit, je me souviens de vous, quand vous étiez visiteur de prison, vous avez fait un travail admirable, etc., etc. Mais je me demande comment vous allez pouvoir faire notre métier, parce que c'est un métier dur, il faut se battre, on est toujours contre quelqu'un, on est parti civil, comment vous allez faire pour garder la charité? J'ai dit, mais vous avez l'air de poser les faux problèmes. Parce que la charité, ça a l'air d'être pour vous un mâchouillage de guimauve. Alors si vous comptez sur moi pour une charité dont les pauvres et les innocents font les frais, je vous le dis tout de suite, pas du tout, vous ramasserez des coups. Et j'en donnerai. Et sans scrupule. Et je vous signale que Jésus-Christ prend de temps en temps un fouet dans l'Évangile pour chasser les marchands du temple, c'est-à-dire ceux qui prostituent la foi. Ce jour-là, il est parti civil. Alors un homme juste, ben pour moi c'est Jésus-Christ. C'est celui qui a pris le parti du faible, le parti de l'humilier, le parti de l'opprimer, quelle que soit sa forme d'oppression ou d'humiliation.
Robert Boyer, je vous remercie.